Les possédés, deuxième partie, chapitre 4. Tout le monde dans la tente. L'histoire du duel ne tarda pas à se répandre dans la société et y produisit une impression tout à l'avantage de Nicolas Vsevolodovitch. Nombre de ses anciens ennemis se déclarèrent hautement en sa faveur. Quelques mots prononcés au sujet de cette affaire par une personne qui jusqu'alors avait réservé son jugement ne contribuèrent pas peu à ce revirement inattendu de l'esprit public. Voici ce qui arriva. Le lendemain de la rencontre, toute la ville s'était rendue chez la femme du maréchal de la noblesse, dont on célébrait justement la fête ce jour-là. Dans l'assistance se remarquait Julie Mikhaïlovna, venue avec Elisabeth Touchine. La jeune fille était rayonnante de beauté et se montrait fort gaie, ce qui dès l'abord parut très louche à beaucoup de nos dames. Je dois dire que ses fiançailles avec Maurice Nikolaïevitch ne pouvaient plus être mises en doute. En réponse à une question badine d'un général retiré du service, mais encore important, Elisabeth Nikolaïevna déclara elle-même ce soir-là qu'elle était fiancée. Néanmoins, pas une de nos dames ne voulait le croire. Toutes persistaient à supposer un roman, une aventure mystérieuse qui aurait eu lieu en Suisse et à laquelle on mêlait obstinément, je ne sais pourquoi, Julie Mikhaïlovna. Dès qu'elle entra, tous les regards se portèrent curieusement vers elle. Il est à noter que jusqu'à cette soirée, le duel n'était l'objet que de commentaires très discrets. L'événement était très récent. D'ailleurs, on ignorait encore les mesures prises par l'autorité. Autant qu'on pouvait le savoir, celles-ci n'avaient pas inquiété les deux duellistes. Par exemple, il était de notoriété publique que le lendemain matin, Artémie Petrovitch avait librement regagné son domaine de Doukhovo. Comme de juste, tous attendaient avec impatience que quelqu'un se décidât à aborder ouvertement la grosse question du jour. Et l'on comptait surtout pour cela sur le général dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce personnage, un des membres les plus qualifiés de notre club, avait en effet l'habitude d'attacher le grelot. C'était là, pour ainsi dire, sa spécialité dans le monde. Le premier, il portait au grand jour de la discussion publique les choses dont les autres ne s'entretenaient encore qu'à voix basse. Dans la circonstance présente, le général avait une compétence particulière. Il était parent éloigné d'Artémie Petrovitch, quoiqu'il fût en querelle et même en procès avec lui. De plus, il avait eu lui-même deux affaires d'honneur dans sa jeunesse, et l'un de ces duels lui avait valu d'être envoyé comme simple soldat au Caucase. Quelqu'un vint à parler de Barbara Petrovna, qui, depuis deux jours, s'était remise à sortir, et à ce propos vanta son magnifique attelage, provenant du haras des Stavrogines. Sur quoi, le général observa brusquement qu'il avait rencontré dans la journée le jeune Stavrogine à cheval. Un vif mouvement d'attention se produisit aussitôt dans l'assistance. Le général poursuivit en tournant entre ses doigts une tabatière en or qui lui avait été donnée par le tsar. Je regrette de ne pas m'être trouvé ici il y a quelques années. J'étais alors à Karlsbad. Ce jeune homme m'intéresse fort. J'ai tant entendu parler de lui à cette époque. Est-il vrai qu'il soit fou? Quelqu'un l'a dit alors. L'autre jour, on me racontait qu'outragé devant sa cousine par un étudiant, il s'était fourré sous la table. Et hier, Stepan Vysotsky m'apprend que Stavrogine s'est battu en duel avec ce Gaganov. Il a galamment risqué sa vie, paraît-il, à seule fin de mettre un terme aux persécutions de cet enragé. C'était dans les mœurs de la garde il y a 50 ans. Il fréquente ici chez quelqu'un ? Le général se tut, comme s'il eût attendu une réponse. Quoi de plus simple ? Répliqua soudain en élevant la voix Julie Mikhaïlovna, qui était vexée de voir tous les yeux se tourner vers elle comme par l'effet d'un mot d'ordre. Peut-on s'étonner que Stavrogin se soit battu avec Gaganov et qu'il ait dédaigné l'injure de l'étudiant ? Il ne pouvait pas appeler sur le terrain un homme qui avait été son serf. L'idée était claire et simple, mais personne n'y avait encore songé. Ces paroles eurent un grand retentissement et retournèrent l'opinion de fond en comble. Les scandales, les commérages passèrent dès lors à l'arrière-plan. Nicolas Vsevolodovitch apparut comme un homme que l'on avait méconnu et qui possédait une sévérité de principe presque idéale. Mortellement outragé par un étudiant, c'est-à-dire par un individu qui avait reçu de l'éducation et qui était émancipé du servage, il méprisait l'offense, parce que l'offenseur était un de ses anciens serfs. La société frivole tient en mésestime l'homme qui se laisse souffleter impunément. Il bravait les préjugés d'un monde peu éclairé. On se rappela les relations de Nicolas Vsevolodovitch avec le comte K. Et l'on en conclut fort légèrement qu'il était fiancé à une des filles de ce haut fonctionnaire. Quant à sa prétendue intrigue en Suisse avec Elisabeth Nikolaïevna, les dames elles-mêmes cessèrent d'en parler. Praskovie Ivanovna et sa fille venaient enfin de se mettre en règle avec l'étiquette provinciale. Elles avaient fait leur visite. Tout le monde trouvait que Mademoiselle Touchine était une jeune fille des plus ordinaires, qui profitait seulement de ses nerfs malades pour se rendre intéressante. Sa syncope, le jour de l'arrivée de Nicolas Vsevolodovitch, n'était plus attribuée maintenant qu'à la frayeur que la brutale conduite de l'étudiant avait dû lui causer. On exagérait même le prosaïsme des circonstances qu'on s'était plu d'abord à présenter sous des couleurs si fantastiques. De la boiteuse, il n'était plus du tout question. Un détail si insignifiant ne valait pas la peine qu'on en parlât. Et quand il y aurait 100 boiteuses, qui est-ce qui n'a pas été jeune ? On s'étendait sur le respect de Nicolas Vsevolodovitch pour sa mère. On s'ingéniait à lui découvrir différentes vertus. On vantait l'instruction qu'il avait acquise par 4 années d'études dans les universités allemandes. La manière d'agir d'Artémy Petrovitch était unanimement considéré comme un manque de tact, et tous s'accordaient à reconnaître chez Julie Mikhaïlovna une pénétration remarquable. Aussi, lorsque enfin Nicolas Vsevolodovitch se montra, on l'accueillit de l'air le plus naïvement sérieux, et il put lire dans tous les yeux avec quelle impatience il était attendu. Il n'ouvrit pas la bouche, et son silence le servit mieux que ne l'eussent fait les plus belles paroles. En un mot, tout lui réussit. Il fut à la mode. En province, si quelqu'un est allé une fois dans le monde, il est forcé d'y retourner. Nicolas Vsevolodovitch se prêta scrupuleusement à tout ce que les convenances exigeaient de lui. On ne le trouva pas gai. « C'est un homme qui a souffert, dit-on. » Un homme qui n'est pas ce que sont les autres, il a beaucoup à penser. On allait maintenant jusqu'à lui savoir gré de cette humeur fière et hautaine qui lui avait fait tant d'ennemis 4 ans auparavant. Barbara Petrovna était radieuse. Je ne puis dire si elle regrettait beaucoup l'évanouissement de ses rêves au sujet d'Elisabeth Nikolaïevna. Ici, sans doute, lui vint en aide l'orgueil familial. Chose étrange, Barbara Petrovna croyait fermement que Nicolas, en effet, avait choisi chez le comte K. Et le plus singulier, c'est qu'elle croyait à cela, comme tout le monde, sur la foi des bruits parvenus à ses oreilles. Elle-même n'osait adresser aucune question directe à Nicolas Vsevolodovitch. 2 ou 3 fois pourtant, la curiosité l'emporta sur la crainte, et la mère, d'un ton enjoué, reprocha à son fils de faire le cachotier avec elle. Le jeune homme sourit et continua à se taire. son silence fut interprété comme une réponse affirmative. Eh bien, avec tout cela, Barbara Petrovna n'oubliait jamais la boiteuse. Alors même qu'elle rêvait au prochain mariage de son fils avec une des filles du comte K, la pensée de Marie Timofeyevna pesait toujours sur son cœur, comme une pierre, comme un cauchemar, et l'inquiétait étrangement pour l'avenir. Inutile de dire que la générale Stavrogine avait retrouvé dans la société la considération et les égards respectueux auxquels elle était accoutumée autrefois. Mais elle ne profitait guère de cet avantage, allant fort peu dans le monde. Elle fit cependant une visite solennelle à la gouvernante. Naturellement, personne n'avait été plus ravi que Barbara Petrovna du langage tenu par Julie Mikhaïlovna chez la maréchale de la noblesse. Ses paroles avaient ôté de son cœur un gros chagrin et tranché du coup plusieurs des questions qui la tourmentaient si fort depuis ce malheureux dimanche. « Je ne comprenais pas cette femme, » décida-t-elle. Et franchement, avec sa spontanéité ordinaire, elle déclara à Julie Mikhaïlovna qu'elle était venue la remercier. La gouvernante fut flattée, mais se tint sur la réserve. Elle commençait à avoir le sentiment de son importance, peut-être même l'avait-elle déjà un peu trop. Par exemple, elle observa dans le cours de la conversation qu'elle n'avait jamais entendu parler du mérite scientifique de Stepan Trofimovitch. « Sans doute je reçois le jeune Verkhovansky, et je m'intéresse à lui. Il est étourdi, mais on peut passer cela à son âge. D'ailleurs, il possède un solide savoir, et, après tout, ce n'est pas un critique fourbu. » Barbara Petrovna se hâta de répondre que Stepan Trofimovitch n'avait jamais été critique, et qu'au contraire, il avait passé toute sa vie chez elle. Dans la première partie de sa carrière, des circonstances trop connues de tout le monde avaient appelé l'attention sur lui, et il s'était signalé dans ces derniers temps par des travaux sur l'histoire de l'Espagne. À présent, il se proposait d'écrire quelque chose sur la situation actuelle des universités allemandes. Il songeait aussi à faire un article sur la Madone de Dresde. Bref, Barbara Petrovna ne négligea rien pour relever Stepan Trofimovitch aux yeux de la gouvernante. « Sur la Madone de Dresde ? Il s'agit de la Madame Sixtine ? Chère Barbara Petrovna, j'ai passé 2 heures devant cette toile, et je suis partie désenchantée. Je n'y ai rien compris, et j'étais stupéfaite. Karmazinov dit aussi qu'il est difficile d'y comprendre quelque chose. » À présent, tous, Russes et Anglais, Descartes, ne rien trouvaient dans ce tableau, si admiré de l'ancienne génération. C'est une nouvelle mode, alors? Je pense qu'il ne faut pas faire fi de notre jeunesse. On crie qu'elle est communiste, mais, à mon avis, on doit l'entourer d'égards et de sympathie. À présent, je lis tout. Je reçois tous les journaux. Je vois tout ce qui s'écrit sur l'organisation de la commune, les sciences naturelles et le reste, parce qu'il faut enfin savoir où l'on vit et à qui l'on a affaire. On ne peut passer toute sa vie dans les hautes régions de la fantaisie. Je me suis fait une règle d'être aimable avec les jeunes gens, pour les arrêter sur la pente du précipice. Croyez-le, Barbara Petrovna, c'est nous, la société, qui pouvons seuls, par notre bienfaisante influence, et notamment par des procédés gracieux, les retenir au bord de l'abîme où les pousse l'intolérance de toutes ces vieilles perruques. Du reste, je suis bien aise que vous m'ayez parlé de Stepan Trofimovitch. Vous m'avez donné une idée. Il pourra prendre part à notre séance littéraire. J'organise, vous savez, une fête par souscription au profit des institutrices pauvres de notre province. Elles sont dispersées dans toute la Russie. On en compte jusqu'à 6 qui sont originaires de ce district. Il y a en outre 2 télégraphistes, 2 étudiantes en médecine et plusieurs qui voudraient aussi étudier, mais qui n'en ont pas les moyens. Le sort de la femme russe est terrible, Barbara Petrovna. On fait maintenant de cela une question universitaire, et même le Conseil de l'Empire s'en est occupé dans une de ses séances. Dans notre étrange Russie, on peut faire tout ce que l'on veut. Aussi, je le répète, si la société voulait, elle pourrait, rien que par des gentillesses et des procédés aimables, diriger dans la bonne voie ce grand mouvement des esprits. Oh, mon Dieu, sont-ce les personnalités éclairées qui nous manquent? Assurément non, mais elles sont isolées. Unissons-nous donc et nous serons plus forts. En un mot, j'aurai d'abord une matinée littéraire, puis un léger déjeuner et le soir un bal. Nous voulions commencer la soirée par des tableaux vivants, mais il paraît que cela entraînerait beaucoup de frais. Aussi, pour le public, il y aura un ou deux quadrilles dansées par des masques qui auront des costumes de caractère et représenteront certaines tendances de la littérature. C'est Karmazinov qui a suggéré l'idée de ce divertissement. Il m'est d'un grand secours. Vous savez, il nous lira sa dernière production que personne ne connaît encore. Il dépose la plume et renonce désormais à écrire. Cet article est son adieu au public. Une petite chose charmante intitulée « Merci ». Un titre français, mais il trouve cela plus piquant et même plus fin. Je suis aussi de cet avis, et c'est même sur mon conseil qu'il s'est décidé en faveur de ce titre. Stepan Trofimovitch pourrait aussi, je pense, faire une lecture, s'il a quelque chose de court et qui ne soit pas trop scientifique. Pierre Stepanovitch prendra part également, je crois, à la matinée littéraire, et nous aurons peut-être encore un autre lecteur. Pierre Stepanovitch passera chez vous pour vous communiquer le programme. Ou plutôt, si vous voulez bien le permettre, je vous l'apporterai moi-même. De mon côté, je vous demande la permission de m'inscrire sur votre liste. Je ferai part de votre désir à Stepan Trofimovitch, et je tâcherai d'obtenir son consentement. Barbara Petrovna revint chez elle définitivement enchantée de Julie Mikhaïlovna, et, je ne sais pourquoi, très fâchée contre Stepan Trofimovitch. « Je suis amoureuse d'elle, je ne comprends pas comment j'ai pu me tromper ainsi sur cette femme, » dit-elle à son fils et à Pierre Stepanovitch qui vint dans la soirée. « Il faut pourtant vous réconcilier avec le vieux, » conseilla Pierre Stepanovitch. « Il est au désespoir, sa disgrâce est complète. Hier, il a rencontré votre voiture, il a salué et vous vous êtes détourné. Vous savez, nous allons le produire, j'ai certaines vues sur lui. » Et il peut encore être utile. Oh, il lira. Je ne parle pas seulement de cela, mais je voulais justement passer chez lui aujourd'hui. Ainsi, je lui ferai la commission. Si vous voulez, je ne sais pas du reste comment vous arrangerez cela, dit Barbara Petrovna avec hésitation. Je comptais m'expliquer moi-même avec lui. Je voulais lui fixer un rendez-vous, ajouta-t-elle. Et son visage se renfrogna. Ce n'est pas la peine de lui donner un rendez-vous. Je lui dirai la chose tout bonnement. Soit, dites-la lui, mais ne manquez pas de lui dire aussi que je le verrai certainement un de ces jours. Pierre Stepanovitch sortit en souriant. Autant que je me souviens, il était alors d'une humeur massacrante, et presque personne n'était à l'abri de ses boutades. Chose étrange, tout le monde les lui pardonnait, bien qu'elles passassent souvent toutes les bornes. L'idée s'était généralement répandue qu'il ne fallait pas le juger comme on aurait jugé un autre. Je noterai que le duel de Nicolas Vsevolodovitch l'avait mis dans une colère extrême. Cet événement fut pour lui une surprise, et il devint vert quand on le lui raconta. C'était peut-être son amour-propre qui souffrait. Il n'avait appris l'affaire que le lendemain, alors qu'elle était déjà connue de toute la ville. « Vous n'aviez pas le droit de vous battre !» dit-il tout bas à Stavrogin, qu'il aperçut par hasard au club 5 jours après. Il est à remarquer que durant tout ce temps, ils ne s'étaient rencontrés nulle part, quoique Pierre Stepanovitch fût venu presque chaque jour chez Barbara Petrovna. Nicolas Vsevolodovitch le regarda silencieusement, et d'un air distrait, comme s'il n'eût pas compris de quoi il s'agissait, mais il ne s'arrêta point et passa dans la grande salle pour se rendre au buffet. Pierre Stepanovitch s'élança à sa suite et, comme par distraction, lui saisit l'épaule. « Vous êtes allé aussi chez Chatov. Vous voulez rendre public votre mariage avec Marie Timofeyevna ?» Nicolas Vsevolodovitch se dégagea par un mouvement brusque et, le visage menaçant, se retourna soudain vers Pierre Stepanovitch. Celui-ci le considéra en souriant d'une façon étrange. Cette scène ne dura qu'un instant. Stavrogin s'éloigna. En sortant de chez Barbara Petrovna, Pierre Stepanovitch alla aussitôt voir le vieux. S'il se pressait tant, c'était uniquement parce qu'il avait hâte de se venger d'une injure que j'ignorais encore. Dans leur dernière entrevue qui remontait au jeudi précédent, le père et le fils s'étaient pris de querelle. Après avoir lui-même entamé la dispute, Stepan Trofimovitch la termina en s'armant d'un bâton pour mettre Pierre Stepanovitch à la porte. Il m'avait caché ce fait. Mais au moment où Petroucha entra avec son sourire présomptueux et son regard fureteur, Stepan Trofimovitch me fit signe de ne pas quitter la chambre. Je fus ainsi édifié sur leur véritable relation, car j'assistais à tout l'entretien qu'ils eurent ensemble. Stepan Trofimovitch était assis sur une couchette. Depuis la dernière visite de son fils, il avait maigri et jauni. Pierre Stepanovitch s'assit le plus familièrement du monde à côté de lui, croisa ses jambes à la turque sans la moindre cérémonie et prit sur la couchette beaucoup plus de place qu'il n'aurait dû en occuper, s'il eût eu quelque souci de ne point gêner son père. Celui-ci ne dit rien et se rangea d'un air digne. Un livre était ouvert sur la table. C'était le roman. Que faire? Hélas, je dois avouer une étrange faiblesse de notre ami. L'idée qu'il devait sortir de sa retraite et livrer une suprême bataille séduisait de plus en plus son imagination. Je devinais pourquoi il s'était procuré l'ouvrage de Tchernychevski. Prévoyant les violentes protestations que son langage ne manquerait pas de soulever parmi les nihilistes, il étudiait leur catéchisme pour pouvoir en faire, devant elle, une triomphante réfutation. Oh, que ce livre le désolait! Parfois il le jetait avec désespoir, se levait vivement et arpentait la chambre, en proie à une sorte d'exaltation. « Je reconnais que l'idée fondamentale de l'auteur est vraie, » me disait-il fiévreusement. « Mais voilà ce qu'il y a de plus terrible. Cette idée nous appartient. C'est nous qui les premiers l'avons semée et fait éclore. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire de nouveau après nous ? « Mais mon Dieu, comme tout cela est altéré, faussé, gâté !» s'écriait-il en frappant avec ses doigts sur le livre. « Était-ce à de pareilles conclusions que nous voulions aboutir ? Qui peut reconnaître là l'idée primitive ?» Pierre Stepanovitch prit le volume et en lut le titre. « Tu t'éclaires ? » fit-il avec un sourire. « Il est plus que temps. Si tu veux, je t'apporterai mieux que cela. » Stepan Trofimovitch resta silencieux et digne. Je m'assis dans un coin sur un divan. Pierre Stepanovitch s'empressa de faire connaître l'objet de sa visite. Naturellement, Stepan Trofimovitch l'apprit avec une stupéfaction extrême. Pendant que son fils parlait, la frayeur et l'indignation se partageaient son âme. « Et c'est cette Julie Mikhaïlovna compte que j'irai lire chez elle ?»«
C'est-à-dire qu'elle n'a aucun besoin de toi. Au contraire, elle n'agit ainsi que par amabilité à ton égard, et pour faire une lèche à Barbara Petrovna. mais il est clair que tu n'oseras pas refuser. D'ailleurs, toi-même, je pense, tu ne demandes pas mieux que de faire cette lecture, »
ajouta en souriant Pierre Stepanovitch.
« Vous autres, vieux, vous avez tous un amour-propre d'enfer. Pourtant, écoute, il ne faut pas que ce soit trop ennuyeux. Tu t'occupes de l'histoire de l'Espagne, n'est-ce pas? L'avant-veille, tu me montreras la chose, j'y jetterai un coup d'œil. Autrement, tu endormiras ton auditoire. »
La grossièreté de ces observations était évidemment préméditée. Pierre Stepanovitch avait l'air de croire qu'il était impossible de parler plus poliment quand on s'adressait à Stepan Trofimovitch. Celui-ci feignait toujours de ne point remarquer les insolences de son fils, mais il était de plus en plus agité par les nouvelles qu'il venait d'apprendre.
« Et c'est elle, elle-même, qui me fait dire cela par vous ?»
demanda-t-il en pâlissant.
« C'est-à-dire, vois-tu, elle veut te donner un rendez-vous pour avoir une explication avec toi. C'est un reste de vos habitudes sentimentales. Tu as coquetté avec elle pendant 20 ans, et tu l'as accoutumée aux procédés les plus ridicules. Mais sois tranquille, maintenant ce n'est plus cela du tout. Elle-même répète sans cesse que maintenant seulement elle commence à voir clair. Je lui ai nettement fait comprendre que toute votre amitié n'était qu'un mutuel épanchement d'eau sale.
Elle m'a raconté beaucoup de choses, mon ami.
Fi, quel emploi de laquais tu as rempli pendant tout ce temps. J'en ai même rougi pour toi.
J'ai rempli un emploi de laquais?
Pire que cela, tu as été un parasite, c'est-à-dire un laquais bénévole. Nous sommes paresseux, mais si nous n'aimons pas le travail, nous aimons bien l'argent. À présent, elle-même comprend tout cela. Du moins, elle m'en a terriblement raconté sur toi. Ce que j'ai ri, mon cher, en lisant les lettres que tu lui écrivais. C'est vilain, sans doute. Mais c'est que vous êtes si corrompu, si corrompu. Il y a dans l'aumône quelque chose qui déprave à tout jamais. Tu en es un frappant exemple.
Elle t'a montré mes lettres?
Toutes. Sans cela, comment donc les aurais-je lues? Oh, combien de papiers dus à noircir! Je crois que j'ai bien vu là plus de 2000 lettres. Mais sais-tu, vieux, je pense qu'il y a eu un moment où elle t'aurait volontiers épousé. Tu as fort bêtement laissé échapper l'occasion. Sans doute, je parle en me plaçant à ton point de vue, mais après tout, cela eût encore mieux valu que de consentir pour de l'argent à épouser les péchés d'autrui.
Pour de l'argent? Elle-même dit que c'était pour de l'argent?
Fit douloureusement Stepan Trofimovitch. Mais pourquoi donc aurait-ce été? En lui disant cela, je t'ai défendu, car tu n'as pas d'autre excuse. Elle a compris elle-même qu'il te fallait de l'argent, comme à tout le monde. Et à ce point de vue, dame, tu avais raison. Je lui ai prouvé, clair comme 2 et 2 font 4, que vos relations étaient de part et d'autre fondées exclusivement sur l'intérêt. Tu avais en elle une capitaliste, et elle avait en toi un bouffon sentimental. Du reste, ce n'est pas pour l'argent qu'elle est fâchée, quoique tu l'aies effrontement exploitée. Si elle t'en veut, c'est seulement parce que 20 années durant, elle a cru en toi, parce que tu l'as prise au piège de ta prétendue noblesse et fait mentir pendant si longtemps. Elle n'avouera jamais qu'elle-même ait menti, mais tu n'en seras pas plus blanc. Au contraire, comment n'as-tu pas prévu qu'un jour ou l'autre, il te faudrait régler tes comptes? Tu n'étais pourtant pas sans quelque intelligence autrefois. Je lui ai conseillé hier de te mettre dans un hospice. Sois tranquille, dans un établissement convenable. Cela n'aura rien de blessant. Je crois qu'elle s'y décidera. Tu te rappelles ta dernière lettre, celle que tu m'as écrite il y a 3 semaines, quand j'étais dans le gouvernement de K.
Stepan Trofimovitch se leva brusquement.
« Est-il possible que tu la lui aies montrée ? »
demanda-t-il épouvanté.
« Comment donc ? Certainement, je n'ai rien eu de plus pressé. C'est la lettre où tu m'informes qu'elle t'exploite et qu'elle est jalouse de ton talent. Tu parles aussi, là, des péchés d'autrui. À propos, mon ami, quel amour-propre tu as pourtant. J'ai joliment ri. En général, tes lettres sont fort ennuyeuses. Tu as un style terrible. Souvent, je m'abstenais de les lire. Il y en a encore une qui traîne chez moi et que je n'ai pas décachetée. Je te l'enverrai demain. Mais celle-là, la dernière, c'est le comble de la perfection. Comme j'ai ri, comme j'ai ri. Scélérat, monstre, vociféra le père. Ah, diable, avec toi, il n'y a pas moyen de causer. Écoute, tu vas encore te fâcher, comme jeudi dernier. Stepan Trofimovitch se redressa d'un air menaçant. Comment oses-tu me tenir un pareil langage? Que reproches-tu à mon langage? N'est-il pas simple et clair? Mais dis-moi donc enfin, monstre, si tu es ou non mon fils. Tu dois savoir cela mieux que moi. Il est vrai que sur ce point, tout père est porté à s'aveugler.
Tais-toi! Tais-toi!
Interrompit tout tremblant Stepan Trofimovitch. Vois-tu, tu cries et tu m'invectives. Comme jeudi dernier, tu as voulu lever ta canne. Mais j'ai découvert alors un document. Par curiosité, j'ai passé toute la soirée à fouiller dans la malle. À la vérité, il n'y a rien de précis. Tu peux te tranquilliser. C'est seulement une lettre de ma mère à ce Polonais. Mais en juger par son caractère...
Encore un mot et je te donne un soufflet.
Voilà les gens, observa Pierre Stepanovitch en s'adressant tout à coup à moi. Vous voyez, ce sont là les rapports que nous avons ensemble depuis jeudi. Je suis bien aise qu'aujourd'hui, du moins, vous soyez ici. Vous pourrez juger en connaissance de cause. D'abord, il y a un fait. Il me reproche la manière dont je parle de ma mère. Mais n'est-ce pas lui qui m'a poussé à cela ? À Pétersbourg, quand j'étais encore au gymnase, ne me réveillait-il pas deux fois par nuit pour m'embrasser en pleurant comme une femme et me raconter quoi ? Des anecdotes graveleuses sur le compte de ma mère. Il est le premier par qui je les ai apprises.
Oh ! Je parlais de cela alors dans un sens élevé. Oh ! Tu ne m'as pas compris, pas du tout.
Mais tu en disais beaucoup plus que je n'en dis. Conviens-en. Vois-tu, si tu veux, cela m'est égal. Je me place à ton point de vue. Quant à ma manière de voir, sois tranquille, je n'accuse pas ma mère. Que je sois ton fils ou le fils du Polonais, peu m'importe. Ce n'est pas ma faute si vous avez fait un si sot ménage à Berlin. Mais pouvait-on attendre autre chose de vous? Eh bien, n'êtes-vous pas des gens ridicules après tout? Et ne t'est-il pas égal que je sois ou non ton fils? « Écoutez, continua-t-il en s'adressant de nouveau à moi, depuis que j'existe, il n'a pas dépensé un rouble pour moi. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai vécu sans le connaître. Plus tard, il a ici dilapidé mon avoir. Et maintenant, il proteste qu'il m'a toujours porté dans son cœur. Il joue devant moi la comédie de l'amour paternel. Mais je ne suis pas Barbara Petrovna pour donner dans de pareils godons. » Il se leva et prit son chapeau.
« Je te maudis !»
fit en étendant la main au-dessus de son fils, Stepan Trofimovitch, pâle comme la mort.
« Peut-on être aussi bête que cela ?»
reprit d'un air étonné Pierre Stepanovitch. « Allons, adieu, vieux, je ne viendrai plus jamais chez toi. Quant à ton article, n'oublie pas de me l'envoyer au préalable. » Et tâche, si faire se peut, d'éviter les fadaises. Des faits, des faits, des faits, mais surtout, sois bref. Adieu. Pierre Stepanovitch avait en effet certaines vues sur son père. Je crois qu'il voulait le pousser à bout et l'amener ainsi à faire quelques scandales. Il avait besoin de cela pour les buts qu'il poursuivait et dont il saura parler plus loin. Parmi les autres personnages que Pierre Stepanovitch entendait faire servir, à leur insu, au succès de ses combinaisons, il y en avait un sur qui il comptait particulièrement. C'était M. von Lamke lui-même. André Antonovitch von Lamke appartenait à cette bienheureuse race germanique qui fournit tant d'employés à la Russie. Quoique assez médiocrement apparenté, un de ses oncles était lieutenant-colonel du génie et un autre boulanger. Il eut la chance de faire son éducation dans une de ces écoles aristocratiques dont l'accès n'est ouvert qu'aux jeunes gens issus de familles riches ou possédant des relations influentes. Presque aussitôt après avoir terminé leurs études, les élèves de cet établissement obtenaient, dans le service public, des emplois relativement considérables. André Antonovitch ne brilla point par ses succès scolaires, mais il était d'un caractère gai et il se fit aimer de tous ses camarades. Dans les classes supérieures, où bon nombre de jeunes gens ont coutume de discuter si ardemment les grosses questions du jour, notre futur gouverneur continua à s'adonner aux plus innocentes farces d'écoliers. Il amusait tout le monde par des facéties plus cyniques, il est vrai, que spirituelles. En classe, quand le professeur lui adressait une question, il se mouchait d'une façon étonnante, ce qui faisait rire tous les élèves et le professeur lui-même. Au dortoir, il représentait, au milieu des applaudissements universels, quelques tableaux vivants d'un genre fort risqué. Parfois, il exécutait sur le piano, rien qu'avec son nez, l'ouverture de Fra Diavolo, et il s'en tirait assez habilement. Pendant sa dernière année de lycée, il se mit à composer des vers russes. Quant à sa langue maternelle, von Lamke, comme beaucoup de ses congénères, n'en avait qu'une connaissance fort imparfaite. Au service, où il eut toujours pour chef des Allemands, il franchit assez vite les premiers échelons de la hiérarchie bureaucratique. Du reste, à ses débuts, le jeune employé n'était guère ambitieux. Il ne rêvait qu'une petite situation officielle, bien sûr, et comportant quelques profits indirects. Dans les loisirs que lui laissaient ses fonctions, il fabriquait divers ouvrages en papier, d'un travail fort ingénieux. Tantôt une salle de spectacle, tantôt une gare de chemin de fer, etc. Il lui arriva aussi d'écrire une nouvelle et de l'envoyer à une revue pétersbourgeoise, mais elle ne fut pas insérée. Il était parvenu à l'âge de 38 ans, lorsque sa bonne mine et sa belle prestance séduisirent Julie Mikhaïlovna, qui avait déjà giflé la quarantaine. À partir de ce moment, la fortune d'André Antonovitch prit un rapide essor. Outre une dot évaluée, suivant l'ancienne estimation, à 200 âmes, Julie Mikhaïlovna apportait à son mari une protection puissante. Von Lamke sentit qu'à présent, l'ambition lui était permise. Peu après son mariage, il reçut plusieurs distinctions honorifiques, puis fut nommé gouverneur de notre province. Dès son arrivée chez nous, Julie Mikhaïlovna s'efforça d'agir sur son époux. Selon elle, ce n'était pas un homme sans moyens. Il savait se présenter, faire figure, écouter d'un air profond et garder un silence plein de dignité. Bien plus, il pouvait au besoin prononcer un discours, possédait quelques bribes d'idées et avait acquis ce léger vernis de libéralisme indispensable à un administrateur moderne. Mais ce qui désolait la gouvernante, c'était de trouver chez son mari si peu de ressorts et d'initiatives. Maintenant qu'il était arrivé, il ne semblait plus éprouver que le besoin du repos. Tandis qu'elle voulait lui infuser son ambition, il s'amusait à confectionner avec du papier un intérieur de temple protestant. Le pasteur était en chaire, les fidèles l'écoutaient les mains jointes, une dame s'essuyait les yeux, un vieillard se mouchait, etc.
Julie Mikhaïlovna n'eut pas plutôt appris l'existence de ce joli travail qu'elle s'empressa de le confisquer et de le serrer dans un meuble de son appartement. Pour dédommager von Lambke, elle lui permit d'écrire un roman, à condition qu'il s'adonnerait en secret à cette occupation littéraire. Dès lors, la gouvernante ne compta plus que sur elle-même pour imprimer une direction à la province. Quoique la mesure fît défaut à son imagination échauffée par un célibat trop prolongé, tout alla bien durant les 2 ou 3 premiers mois. Mais avec l'apparition de Pierre Stepanovitch, les choses changèrent de face. Le fait est que tout d'abord, le jeune Verkhovansky se montra fort irrespectueux à l'égard d'André Antonovitch et prit avec lui les libertés les plus étranges. Julie Mikhaïlovna, toujours si jalouse du prestige de son mari, ne voulait pas remarquer cela, ou du moins n'y attachait pas d'importance. Elle avait fait du nouveau venu son favori. Il mangeait et buvait dans la maison, on pouvait presque dire qu'il y couchait. André Antonovitch essayait de se défendre, mais sans succès. C'était en vain que devant le monde il appelait Verkhovansky « jeune homme » et lui frappait sur l'épaule d'un air protecteur. Pierre Stepanovitch semblait toujours se moquer de son excellence, même quand il affectait de parler sérieusement, et il lui tenait en public les propos les plus extraordinaires. Un jour, von Lambke, en rentrant chez lui, trouva le jeune homme endormi sur un divan dans son cabinet où il avait pénétré sans se faire annoncer. Pierre Stepanovitch expliqua qu'il était venu voir le gouverneur et que, celui-ci étant absent, il avait profité de l'occasion pour faire un petit somme. Von Lambke, blessé, se plaignit de nouveau à sa femme. Celle-ci railla la susceptibilité de son mari et observa malignement que sans doute lui-même ne savait pas se tenir sur un pied convenable. « Du moins avec moi, » dit-elle, « ce garçon ne se permet jamais de familiarité. C'est du reste une nature franche et naïve, à qui manque seulement l'usage du monde. » Von Lambke fit la moue. Cette fois, Julie Mikhaïlovna réconcilia les deux hommes. Pierre Stepanovitch ne s'excusa point et se tira d'affaire par une grossière plaisanterie qui aurait pu passer pour une nouvelle insulte, mais qu'on voulut bien considérer comme l'expression d'un regret. Par malheur, André Antonovitch avait, dès le début, donné barre sur lui. Il avait commis la faute de confier son roman à Pierre Stepanovitch peu de jours après avoir fait la connaissance de ce dernier, qu'il prenait pour un esprit poétique. Von Lambke, depuis longtemps désireux d'avoir un auditeur, s'était empressé de lui lire un soir 2 chapitres de son ouvrage. Le jeune homme écouta sans cacher son ennui, bâilla impoliment et ne loua pas une seule fois l'écrivain. Mais, au moment de se retirer, il demanda la permission d'emporter le manuscrit, voulant, dit-il, le lire chez lui à tête reposée pour pouvoir s'en faire une idée plus exacte. Von Lambke y consentit. Depuis lors, bien que les visites de Pierre Stepanovitch fussent quotidiennes, il oubliait toujours de rapporter le roman et se contentait de rire quand on lui en demandait des nouvelles. À la fin, il déclara l'avoir perdu dans la rue, le jour même où le gouverneur le lui avait prêté. En apprenant cela, Julie Mikhaïlovna se fâcha sérieusement contre son mari. « Est-ce que tu ne lui as pas aussi laissé emporter ton temple en papier ? » fit-elle avec une sorte d'inquiétude. Von Lambke commença à devenir soucieux, ce qui nuisait à sa santé et lui était défendu par les médecins. Outre que, comme administrateur, il avait de graves sujets de préoccupation, ainsi que nous le verrons plus loin, comme homme privé, il souffrait cruellement. En épousant Julie Mikhaïlovna, il n'avait pas prévu que la discorde pût jamais régner dans son intérieur,
et il se sentait incapable de tenir tête aux orages domestiques. Sa femme s'expliqua enfin franchement avec lui.
« Tu ne peux pas te fâcher pour cela, » dit-elle, « parce que tu es 3 fois plus raisonnable que lui et infiniment plus haut placé sur l'échelle sociale. Ce jeune homme a conservé beaucoup de l'ancien bousingo et, à mon avis, sa façon d'agir est une simple gaminerie. Mais c'est peu à peu et non tout d'un coup que nous le corrigerons. Nous devons traiter notre jeunesse avec bienveillance. Je la prends par les procédés aimables et je la retiens sur le penchant de l'abîme. »
« Mais il dit, le diable sait quoi ? » répliqua von Lampke. « Je ne puis rester impassible lorsque devant les gens et en ma présence, il déclare que le gouvernement encourage l'ivrognerie exprès pour abrutir le peuple et l'empêcher de se soulever. Représente-toi mon rôle quand je suis forcé d'entendre publiquement tenir ce langage. »
En parlant ainsi, le gouverneur songeait à une conversation qu'il avait eue récemment avec Pierre Stepanovitch. Depuis 1859, von Lampke, mu non par une curiosité d'amateur, mais par un intérêt politique, avait recueilli toutes les proclamations lancées par les révolutionnaires russes, tant chez nous qu'à l'étranger. Il s'avisa de montrer cette collection à Pierre Stepanovitch, dans l'espoir naïf de le désarmer par son libéralisme. Devinant la pensée d'André Antonovitch, le jeune homme n'hésita pas à affirmer qu'une seule ligne de certaines proclamations renfermait plus de bon sens que n'importe quelle chancellerie prise dans son ensemble. « Je n'accepte pas même la vôtre !» ajouta-t-il. La mine de Lampke s'allongea.
« Mais nous ne sommes pas encore mûrs pour cela. Chez nous, c'est prématuré »
observa-t-il d'une voix presque suppliante en indiquant du geste les proclamations.
« Non, ce n'est pas prématuré.
Et la preuve, c'est que vous avez peur. »
« Mais pourtant, tenez, par exemple, cette invitation à détruire les églises. »
« Pourquoi pas ? Vous, personnellement, vous êtes un homme intelligent, et sans doute vous ne croyez pas. » Mais vous comprenez trop bien que la foi vous est nécessaire pour abrutir le peuple. La vérité est plus honorable que le mensonge.
Je l'admets, je l'admets, je suis tout à fait de votre avis. Mais chez nous, il est encore trop tôt,
reprit le gouverneur en fronçant le sourcil. S'il n'y a pas la question d'opportunité qui nous divise, si, à cela près, vous êtes d'avis de brûler les églises et de marcher avec des pics sur Pétersbourg, eh bien, quel fonctionnaire du gouvernement êtes-vous donc ? Prise à un piège aussi grossier, Lampke éprouva une vive souffrance d'amour-propre.
« Ce n'est pas cela !» répondit-il avec animation. « Vous vous trompez parce que vous êtes un jeune homme et surtout parce que vous n'êtes pas au courant de nos buts.
Voyez-vous, « très cher Pierre Stepanovitch, vous nous appelez fonctionnaires du gouvernement. C'est vrai, nous le sommes. Mais permettez, quelle est notre tâche ? Nous avons une responsabilité et au bout du compte, nous servons la chose publique aussi bien que vous. Seulement, nous soutenons ce que vous ébranlez et ce qui, sans nous, tomberait en dissolution. Nous ne sommes pas vos ennemis, pas du tout. » Nous vous disons, allez de l'avant, ouvrez la voie au progrès, ébranlez même, j'entends, ébranlez tout ce qui est suranné, tout ce qui appelle une réforme. Mais quand il le faudra, nous vous retiendrons dans les limites nécessaires, car sans vous, vous ne feriez que bouleverser la Russie. Pénétrez-vous de cette idée que vous et nous avons besoin les uns des autres. En Angleterre, les Whigs et les Tories se font mutuellement contrepoids. Eh bien, nous sommes les Tories et vous êtes les Whigs. C'est ainsi que je comprends les choses.
André Antonovitch s'emballait.
Déjà à Pétersbourg, il aimait à parler en homme intelligent et libéral. Maintenant, il le faisait d'autant plus volontiers que personne n'était aux écoutes. Pierre Stepanovitch se taisait et paraissait plus sérieux que de coutume. ce fut un nouveau stimulant pour l'orateur. « Savez-vous quelle est ma situation à moi, administrateur de la province ?» poursuivit-il en se promenant dans son cabinet. « J'ai trop d'obligations pour pouvoir en remplir une seule, et en même temps je puis dire, avec non moins de vérité, que je n'ai rien à faire. Tout le secret, c'est que mon action est entièrement subordonnée aux vues du gouvernement. Mettons que, par politique, ou pour calmer les passions, le gouvernement établisse là-bas la République, par exemple, et que d'un autre côté, parallèlement, il accroisse les pouvoirs des gouverneurs. Nous autres, gouverneurs, nous avalerons la République. Que dis-je ? Nous avalerons tout ce que vous voudrez. Moi, du moins, je me sens capable d'avaler n'importe quoi. En un mot, que le gouvernement me télégraphie de déployer une activité dévorante, je déploie une activité dévorante. J'ai dit ici, ouvertement, devant tout le monde, « Messieurs, pour la postérité de toutes les institutions provinciales, une chose est nécessaire, l'extension des pouvoirs conférés au gouverneur. » Voyez-vous, il faut que toutes ces institutions, soit territoriales, soit juridiques, vivent, pour ainsi dire, d'une vie double, c'est-à-dire, il faut qu'elles existent. J'admets cette nécessité. Et il faut d'autre part qu'elles n'existent pas. Toujours suivant que le gouvernement le juge bon. Tel cas se produit où le besoin des institutions se fait sentir. À l'instant, les voilà debout dans ma province. Cessent-elles d'être nécessaires ? À l'instant, je les fais disparaître, et vous n'en trouvez plus trace. Voilà comme je comprends l'activité dévorante. Mais elle est impossible si l'on n'augmente pas nos pouvoirs. Nous causons entre quatre yeux. Vous savez, j'ai déjà signalé à Pétersbourg la nécessité pour le gouverneur d'avoir un factionnaire particulier à sa porte. J'attends la réponse. « Il vous en faut deux ?» dit Pierre Stepanovitch. « Pourquoi deux ?» demanda von Lampke en s'arrêtant devant lui. « Parce que ce n'est pas assez d'un seul pour vous faire respecter. Il vous en faut absolument deux. » Andrei Antonovitch fit une grimace. « Vous, Dieu sait ce que vous vous permettez, Pierre Stepanovitch, vous abusez de ma bonté pour me décocher des sarcasmes, et vous vous posez en bourru bienfaisant. « Allons, c'est possible, » murmura entre ses dents Pierre Stepanovitch. « Mais avec tout cela, vous nous frayez le chemin et vous préparez notre succès. « Nous ? Qui ? Et de quel succès parlez-vous ? » questionna von Lampke en regardant avec étonnement son interlocuteur, mais il n'obtint pas de réponse. Le compte-rendu de cet entretien mit Julie Mikhaïlovna de très mauvaise humeur. Andrei Antonovitch essaya de se justifier. « Mais je ne puis le prendre sur un ton d'autorité avec ton favori, surtout dans une conversation tête-à-tête. Je me suis peut-être imprudemment épanchée, parce que j'ai bon cœur. Trop bon cœur. Je ne te connaissais pas ce recueil de proclamations. Fais-moi le plaisir de me le montrer. Mais il m'a prié de le lui prêter pour 24 heures. Et vous le lui avez encore laissé emporter ?» s'écria avec colère Julie Mikhaïlovna. « Quel manque de tact ! Je vais tout de suite l'envoyer reprendre chez lui. Il ne le rendra pas. Je l'exigerai !» répliqua avec force le gouverneur qui se leva brusquement. « Qui est-il pour être si redouté ? Et qui suis-je pour n'oser rien faire ? Asseyez-vous et soyez calme. Je vais répondre à votre première question. » Il m'est recommandé dans les termes les plus chaleureux. Il a des moyens et dit parfois des choses extrêmement intelligentes. Karmazinov m'assure qu'il a des relations presque partout et qu'il possède une influence extraordinaire sur la jeunesse de la capitale. Si par lui je les attire et les groupe tous autour de moi, je les arracherai à leur perte en montrant une nouvelle route à leur ambition. Il m'est entièrement dévoué et suit en tous mes conseils.
Mais, balbutia Von Lampke, pendant qu'on les caresse, ils peuvent... Le diable sait ce qu'ils peuvent faire. Sans doute, c'est une idée, mais... Tenez, j'apprends qu'il circule des proclamations dans le district de... Ce bruit courait déjà l'été dernier. On parlait de placards séditieux, de faux assignats, que sais-je. Pourtant, jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé un seul. Qui est-ce qui vous a dit cela ?
Je l'ai su par Von Blumer.
Ah ! Laissez-moi tranquille avec votre Blumer et ne prononcez plus jamais son nom devant moi.
La colère obligea Julie Mikhaïlovna à s'interrompre pendant une minute.
Von Blumer, qui servait à la chancellerie du gouverneur, était la bête noire de la gouvernante.
Je t'en prie, ne t'inquiète pas de Verkhovansky, acheva-t-elle. S'il fomentait des désordres quelconques, il ne parlerait pas comme il parle, et à toi et à tout le monde ici. Les phraseurs ne sont pas dangereux.
Je dirai plus. S'il arrivait quelque chose, j'en serais la première informée par lui. Il m'est fanatiquement dévoué, fanatiquement.
Devançant les événements, je remarquerai que, sans l'ambition de Julie Mikhaïlovna et sa présomptueuse confiance en elle-même, ces mauvaises petites gens n'auraient pu faire chez nous tout ce qu'ils y ont fait. La gouvernante a ici une grande part de responsabilité.